Fréquence Musée, c'est votre rendez-vous avec l'actualité des musées et des expositions dans votre région. C'est aussi la découverte des objets insolites du musée du ZES. Fréquence Musée, c'est tous les mois sur Fréquence Usage. Bonjour, bienvenue dans Fréquence Musée sur Fuse. Ce mois-ci, je vous propose de découvrir les services patrimoniaux du Conseil départemental du Gard, la direction du livre et de la lecture, les archives départementales et la conservation départementale des musées, avec trois de leurs représentants. Valérie Prohin, direction du livre et de la lecture.
Donc, la direction donc, du livre et de la lecture, c'est une direction du département du Gard qui est destinée à promouvoir la lecture publique sur le département, donc en travaillant en partenariat, on va dire, avec les bibliothèques municipales, petites bibliothèques municipales et bibliothèques intercommunales de plus en plus. C'est un service donc, qui a pour mission la diffusion documentaire. C'est ce qu'on appelait, donc l'appellation a changé en 2007, mais la direction du livre et de la lecture, c'est anciennement la bibliothèque départementale de Pré du Gard, donc avec un service effectivement de dessert documentaire, de diffusion documentaire, mais également une grosse part donc, de notre travail qui s'est orienté vers de la formation et vers un soutien aussi à l'action culturelle. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a monté aussi cette exposition.
Vincent Mollet, archive départementale.
Alors, les archives départementales, c'est comme son nom l'indique, le service du département qui reçoit les archives à valeur historique des services du département, mais aussi des services de la préfecture, de tous les services de l'État dans le département, en fait, les tribunaux, les notaires, qui reçoit aussi les archives que veulent bien nous confier des associations, des entreprises, des familles, pour qu'elles soient chez nous conservées à l'abri et consultables par les chercheurs. On a aussi, au nom du ministère de la Culture, le contrôle des archives des communes, et beaucoup de communes du département ont accepté de nous déposer leurs archives les plus anciennes, les plus précieuses, de même pour qu'elles soient conservées à l'abri et consultables chez nous par les chercheurs. Le tout mis bout à bout, aujourd'hui, ça fait, ben dites un chiffre, 25 km d'étagères, et ça s'accroît tous les ans. Et c'est consultable dans la limite des lois sur la consultabilité, dans notre beau bâtiment qui est quasiment neuf. On s'y est installé en 2013, qui est à Nîmes, rue du Forest, pas loin du périphérique sud.
Béatrice Roche, conservation départementale des musées du Gard.
Alors, pour continuer ce tour des directions culturelles du département du Gard, il y a aussi donc la conservation des musées du Gard, qui est donc une direction du département, qui s'occupe de gérer 4 musées. Alors, bien évidemment, le musée départemental d'art sacré, qui est à Pont-Saint-Esprit, et également 3 musées municipaux, les 2 musées de Bagnols-sur-Cèze, les musées Léon Allègre et Albert André, et le musée de Villeneuve-les-Avignons, qui s'appelle le musée Pierre de Luxembourg. Alors parmi ces musées, effectivement, le musée départemental qui nous occupe plus particulièrement, qui est un musée thématique d'art sacré, qui est un musée labellisé Musée de France, logé dans une superbe maison médiévale qui a été occupée par une même famille, la famille des Piolinques, qui l'a habitée pendant 7 siècles, à partir du 12e siècle. Et c'est une maison qui conserve notamment ses plafonds peints et ses décors des 14e et 15e siècles. C'est la raison pour laquelle cette maison a été classée entièrement monument historique en 1992. Alors le musée d'art sacré, c'est un musée récent puisqu'il a à peine 20 ans. Nous avons fêté les 20 ans de l'ouverture au public l'année dernière en 2015. Et c'est pourtant un musée qui conserve déjà 17 000 objets, donc avec une politique d'acquisition très très active. 900 d'entre eux sont présentés dans le parcours permanent et donc c'est important puisque nous développons depuis 20 ans une approche culturelle qu'on qualifie aujourd'hui de laïque de cet art sacré. Donc c'est pas uniquement de l'art religieux, mais on l'ouvre à plus largement ce qui pourrait être l'art sacré, avec la constitution d'une collection dans ses composantes les plus variées, collection d'ethnographie, collection beaux-arts, collection de livres. Donc un musée assez dynamique avec presque entre 2 et 4 expositions par an qui sont organisées. La plupart du temps, des expositions qui mettent en valeur les collections des réserves qui sont sorties spécialement pour l'occasion. Et puis, de temps en temps, l'appel à des artistes contemporains qui aiment dialoguer justement avec les collections historiques du musée.
Très bien, merci à tous.
Sur Fuse, dans Fréquence Musée, nous retrouvons nos 3 invités des services patrimoniaux du Conseil départemental du Gard, réunis par un projet d'exposition commun.
Alors Valérie Prohin, la direction du livre et de la lecture, est à l'initiative d'une exposition très originale en ce moment sur les 2 sites des archives départementales et du musée d'art sacré.
Alors c'est une histoire qui a commencé en 2013 avec des échanges avec les 2 autres directions culture du département du Gard que sont la conservation départementale et les archives départementales avec l'idée, l'envie en tout cas de travailler sur un projet commun. Donc des réflexions ont eu lieu pendant 1 an, 2 ans à peu près et puis ont abouti à l'idée d'une exposition autour de la collection de livres d'artistes de la direction du livre et de la lecture qui est une collection patrimoniale qui a peu l'occasion de sortir dans son intégralité et ce projet nous permettait effectivement de présenter la quasi-totalité de ce fonds sur 2 sites. Donc on est parti sur l'idée en fait de tout en valorisant effectivement ce fonds particulier de mettre en valeur également et en perspective des livres de la conservation départementale et des livres des archives départementales, des livres insolites, curieux, qui viennent se poser à côté des livres d'artistes et soit entrer en correspondance, soit interroger le livre d'artiste dans sa définition et dans ses limites. Donc ça a été à peu près 2 ans de réflexion, on va dire, 6 mois de montage technique et c'est une exposition donc similaire sur 2 sites, donc 2 expositions sur un même parcours muséographique, un même discours qui, à partir du noyau de départ de la collection, c'est-à-dire des ouvrages de bibliophilie, pour beaucoup, des ouvrages de luxe. La collection s'est développée autour de différents axes, donc les ouvrages de bibliophilie pour le démarrage, et ensuite des livres de dialogue, des livres manuscrits, des livres objets, voilà, un certain nombre d'axes de développement de la collection.
Les livres de dialogue, ce sont ces livres où dialogue, en fait, un texte d'un écrivain ou d'un poète et une œuvre, des œuvres originales d'artistes, c'est ça?
Oui, tout à fait. Les livres de dialogue, en fait, c'est un dialogue entre deux créateurs, initié par un éditeur. Ce sont des livres qui sont héritiers de la tradition de livres initiés par les marchands d'art fin 19e siècle, par Ambroise Vollard et puis plus tard Daniel-Henri Kahnweiler, qui ont été à l'initiative un petit peu de ces duos extrêmement célèbres, Apollinaire de Reims et bien d'autres, Manet, Mallarmé. Et ce travail-là, en fait, a été repris par des éditeurs d'art, par la suite, Terriat, Kira, Mag, et plus proche de nous, par un éditeur notamment installé sur Montpellier qui s'appelle Fata Morgana, et qui continue la réalisation de ces magnifiques livres, où la création plastique se place au même plan que la création littéraire, l'un se répondant à l'autre et l'un s'enrichissant de l'autre.
Donc là, on a vraiment toutes les facettes de ce qu'on peut faire avec des artistes et des auteurs.
On a une certaine diversité des approches. On a ces approches de peintres, on a des approches aussi de graveurs. On va avoir des approches. Voilà, donc la typographie aussi qui rentre évidemment en scène dans la réalisation de ces livres, puisqu'on a des maîtres typographes qui travaillent aussi sur la réalisation de ces livres, qui peuvent être des ouvrages qu'on appelle des tirages de tête ou des livres à frontispice, qui sont des éditions, des premiers exemplaires d'une édition que l'on va destiner à une édition particulière, une édition précieuse d'un tirage courant de poésie. C'est souvent le livre d'artiste dans ce créneau-là, c'est souvent des petits éditeurs de poésie, c'est souvent l'initiative de ces petits éditeurs que sont créés les livres d'artistes. On a aussi des nouveaux courants avec des livres où la poésie vient dialoguer avec de la photographie. On a aussi des livres à technique mixte où on a à la fois de la gravure, de la peinture, de la photographie incluse dans le livre.
Donc, une exposition en deux volets, sur deux lieux différents. Donc, le fond présenté, c'est essentiellement celui de la direction du livre et de la lecture, mais enrichi par des ouvrages provenant des archives départementales et du musée d'art sacré. Sur quelle base vous avez choisi ces ouvrages? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, tiens, ça, il faudrait l'inclure dans l'exposition?
Alors, l'idée commune, c'était de sélectionner ce qu'on pourrait appeler des archives d'artistes, donc quelque chose qui serait juste au-delà de la limite du livre d'artiste. Mais qu'est-ce que c'est que les archives? C'est les documents produits dans le cadre d'une activité, donc avant tout dans un but utilitaire, et par un fonctionnaire, un magistrat, enfin quelqu'un qui n'est pas du tout un artiste. Et c'est aussi quelque chose qui existe à un seul exemplaire, à la rigueur avec une copie de sécurité, mais là ça rejoint un peu les livres d'artistes qui sont parfois manuscrits ou imprimés avec des dessins ou des peintures faites à la main et qui donc sont aussi des choses très rares voire uniques. Donc les archives d'artistes, qu'est-ce que ça peut être? Et on peut prendre un exemple qui est le Compois. Le Compois, c'est au 16e, 17e, 18e siècle ce qu'on appellerait aujourd'hui le registre du cadastre. C'est tenu par le greffier de la communauté, ce qu'on appellerait aujourd'hui le secrétaire de mairie. C'est passionnant si on s'intéresse à l'histoire du terroir, et sinon, mais c'est la lecture la plus barbante qu'on puisse imaginer. Sauf que, justement, le greffier de la communauté s'est quelquefois amusé en première page à faire des calligraphies, des dessins abstraits ou réalistes, et souvent des choses qui pastichent l'illustration, le frontispice, enfin ce qu'on retrouvera dans un livre d'artiste, dans un livre illustré de la même époque. On trouve ça quelquefois dans les Compois, on le trouve aussi quelquefois dans les registres de notaires. Encore une écriture et une lecture très austère où le notaire s'est quelquefois amusé à embellir la chose. Il y a quelque chose qui touche un peu plus aux livres d'artistes qu'on peut voir aussi dans les deux expositions, à Pont-Saint-Esprit et à Nîmes, c'est le livre religieux. Donc le livre religieux, ben ça a avant tout un but utilitaire, soit fournir des textes pour les cérémonies religieuses, soit fournir un cours de religion. On a quelque part dans une vitrine ici à Pont un cours de métaphysique pour le grand séminaire de Nîmes. C'est souvent aussi un livre d'art dans la lignée du manuscrit médiéval. Médiéval est bien au-delà, puisque au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, il a perduré toute une tradition d'écriture sur parchemin, de calligraphie, d'enluminure, des livres religieux, et en particulier des livres de prière. Livres de prière qui offrent d'ailleurs, comme disait Valérie, un dialogue avec notre art, puisqu'on va souvent avec la partition du chant. Et puis quelque chose qui touche aussi par un autre aspect au livre d'artiste, c'est, disons, le travail d'amateur, le journal personnel enrichi par des croquis, par des aquarelles, par des photos, photos recueillies ailleurs ou photos personnelles. On en a quelques beaux exemples sur les deux sites de monsieur qui là encore n'était pas du tout artiste, c'était un ingénieur des mines de la Grande Combe, mais qui nous a laissé comme ça ce qu'il appelait son livre de raison sur différentes étapes de sa vie, sa guerre, ses voyages, qui sont un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui un travail d'amateur, un scrapbook.
Oui, tout à fait. Des découvertes étonnantes, finalement. Il y a plus de fantaisie qu'on l'imaginait dans les archives.
Et plus que je l'imaginais moi-même avant d'avoir fait des recherches pour cette exposition.
Et le musée d'art sacré aussi conserve un fond de livres tout à fait surprenant.
Oui, alors je crois que c'est vrai que la spécificité de cette exposition, c'est ce qui est intéressant pour le visiteur, c'est que la multiplicité des formes de livres d'artistes qui sont présentés dans cette exposition nous pousse à nous interroger sur la définition du livre d'artiste. Et le parallèle qui est fait avec à la fois les collections des archives et les collections de la conservation du musée nous amène à aller encore plus loin dans cette définition. Alors pour ce qui est des collections de la conservation, nous on était très contents de participer à cette exposition parce que ça nous a aussi permis de valoriser un fonds exceptionnel qui est conservé à Pont-Saint-Esprit, c'est le fonds de la bibliothèque Georges Besson. Georges Besson était un critique d'art et grand collectionneur de cette première moitié du XXe siècle. Il a épousé sur le tard Jacqueline Brett-André, devenue Georges Besson, qui nous a légué donc cette exceptionnelle bibliothèque avec des ouvrages vraiment extrêmement précieux qui ont été pour la plupart dédicacés par les auteurs eux-mêmes ou par les artistes qui ont participé à la réalisation de l'ouvrage à Georges Besson. Donc on a exposé à la fois à Nîmes et à Pont-Saint-Esprit plusieurs de ces ouvrages de cette bibliothèque, notamment un très beau livre qui a été imprimé dans les années 60, qui est un hommage à Kahnweiler, qu'on a retrouvé il y a quelques années dans la bibliothèque un petit peu par hasard, et qui est un tirage de tête avec une série de lithographies qui sont signées par les artistes eux-mêmes, dont deux lithographies de Picasso. D'autant que là, on voit tout à fait le lien et la mise en regard intéressante qui peut être faite avec la collection des livres d'artistes, puisque Kahnweiler, comme le disait Valérie, a été l'un des premiers à initier en tout cas ces livres de dialogue entre auteurs et plasticiens. On a également présenté quelques ouvrages monographiques d'artistes qui font partie des éditions éditées par Georges Besson, notamment cette collection qui s'appelle « Les cahiers d'aujourd'hui » aux éditions Cré et compagnie, avec un ouvrage monographique sur Marquet et une lithographie signée de Marquet en frontispice. Et puis on a fait aussi un rapprochement avec un artiste que nous apprécions ici particulièrement, qui est Albert André, et qui a lui-même beaucoup illustré des textes. Il a notamment illustré les temps de Bert de Charles Maurras. Donc c'est une édition qui est présentée aux archives en regard des aquarelles et encres originales qui ont servi à illustrer l'ouvrage. Et ici, quelques ouvrages qu'Albert André a dédicacés spécialement à Adèle et Georges Besson et sur lesquels il a mis en frontispice un dessin voilà, qui a personnalisé vraiment l'ouvrage et qui en fait son caractère très précieux.
Donc vraiment, c'est l'occasion de voir des livres qui sortent de l'ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire, de belles expositions qui ont lieu jusqu'au 12 juin et c'est gratuit, ne ratez pas ça. Voilà, je vous remercie tous les trois.
Merci.
Merci à vous.
Alors, il y aura beaucoup d'animations associées à ces expositions, des démonstrations, des ateliers de gravure, des conférences, et puis la nuit des musées aussi, le 21 mai. Donc, pour connaître ce programme et les horaires d'ouverture des expositions, consultez le site internet www.gare.fr. Fréquence Musée sur Fuse, nous arrivons à notre dernière rubrique, l'objet du mois, un objet des collections du musée d'Uzès. Alors notre objet ce mois-ci est un grand tableau carré qui mesure 2 mètres de hauteur sur 2 mètres de largeur. Il représente un paysage méditerranéen, un champ avec des arbres, au loin une colline avec un mas tout en haut. Et dans ce champ, eh bien, il y a des paysans qui cueillent les feuilles d'un arbre. Certains sont grimpés sur une échelle, voire installés dans l'arbre. Et 2 femmes, avec des costumes d'arlésiennes, se reposent et discutent à l'ombre de l'arbre avec un jeune homme qui porte un sac sur l'épaule. Qui a réalisé cet objet? Eh bien, c'est José Bellon. José Bellon était un peintre, né en 1861 à Alès. Il était également illustrateur pour la presse. Et c'est José Bellon qui est à l'initiative de la création du musée d'Uzès en 1909. De quand date notre objet? Il est daté de 1886. À l'époque, José Bellon est un jeune homme de 25 ans, il vient de sortir de l'École des Beaux-Arts de Paris et il commence à exposer à partir de 1884 au Salon des artistes français, ce salon annuel qui avait lieu à Paris. Il y expose surtout des scènes de la vie parisienne et également des vues d'Uzès. Les Magnanarelles, le tableau dont nous parlons, va être exposé au Salon des artistes français de 1887. Comment ce tableau est-il arrivé au musée? Eh bien, après son exposition à Paris, ce tableau va revenir à Uzès. En fait, il appartient au frère de José Bellon, Albin Bellon. Après la mort d'Albin, José Bellon va le récupérer pour le donner en 1926 au musée d'Uzès, le musée qu'il avait créé. Il avait déjà fait don d'autres tableaux de sa jeunesse au musée d'Uzès. C'est son dernier geste pour le musée, puisque José Bellon va décéder en décembre 1927. Alors, le musée d'Uzès se trouve à l'origine dans l'hôtel de ville. Il est transféré dans l'ancien évêché en 1978, mais le tableau reste dans la mairie, probablement en raison de ses grandes dimensions. Et il n'est arrivé, il n'a rejoint définitivement les salles du musée que depuis 2015.
Thank you.
Fréquence Musée sur Fuse, nous retrouvons notre objet du mois, ce grand tableau de José Bellon, intitulé « Les Magnanarelles ». Alors que représente ce tableau? Eh bien, c'est une activité tout à fait traditionnelle en usage. C'est la récolte des feuilles du mûrier pour nourrir les vers à soie. Alors la soie, vous le savez, c'est un textile qui nous vient d'Asie et dont le secret a été longtemps bien gardé. On a su produire de la soie en Europe qu'à partir du Moyen-Âge. En fait, le fil de soie provient du cocon d'un papillon, le bombyx du mûrier. Ce papillon, lorsqu'il est une chenille, se nourrit exclusivement des feuilles du mûrier. Il a donc fallu planter des mûriers pour pouvoir élever des vers à soie en Europe. Ces plantations de mûriers se sont développées partout dans le sud de la France à partir du XVIe siècle, en Provence, en Languedoc, dans la Drôme. L'élevage de vers à soie permettait aux paysans d'arrondir leurs revenus et leur offrait un apport d'argent liquide, à tel point qu'on avait surnommé les mûriers les arbres aux feuilles d'or. La cueillette était souvent le travail des femmes et des enfants, les femmes qu'on surnommait les magnanarelles, puisque c'était elles qui prenaient soin des magnans. C'est comme ça qu'on appelait les vers à soie en occitan. Les magnans, c'est-à-dire les mangeurs, puisqu'en fait ils passaient leur journée à dévorer les feuilles de mûrier. La production de soie en Europe va connaître une crise à partir des années 1850. Eh bien, il y a des maladies, notamment la pébrine, maladie du vers à soie, mais il y a aussi la concurrence avec l'Asie, puisque de nouvelles routes de circulation des marchandises se sont ouvertes avec le canal de Suez. Et puis, enfin, il y a la création de fibres artificielles qui vont concurrencer sérieusement les fibres naturelles et notamment la soie. Donc peu à peu, la production française de soie va disparaître pendant la première moitié du XXe siècle. Mais à l'époque du tableau, en 1886, la sériciculture, c'est-à-dire la production de soie, est encore une activité importante en usage. Il y a encore 5 filatures à Uzès à cette date. La scène représentée est située au nord-ouest d'Uzès. En effet, on peut reconnaître le mas de Tessan sur la colline, donc la scène est située près des haras. Le paysage actuellement a pas mal changé. On voit bien les gestes caractéristiques des paysans pour éplucher les branches des feuilles de mûrier en tirant sur les feuilles, qui sont ensuite stockées dans de grands sacs noués à la taille. Alors, ce tableau a une petite touche provençale, puisque certains personnages sont habillés en costume d'Arlésienne. Il n'est pas certain que ce costume était vraiment porté à Uzès, mais en tout cas, c'était une référence connue par le public parisien qui a pu voir le tableau au Salon des artistes français. En effet, la Provence était à la mode. Il y avait eu les poèmes de Mistral, et puis leur adaptation, notamment avec l'opéra Mireille. La pièce date de 1859 et Gounod en a fait un opéra en 1864, dans lequel on peut notamment retrouver le fameux air des Magnanarelles qui se situe au moment de la rencontre entre les deux héros Mireille et Vincent pendant la cueillette des feuilles. Le texte provençal, que je vais écorcher parce que je ne parle pas cette belle langue, dit « En desfouillant de vos tivergels, cantas cantas Magnanarelles », ce qui veut dire « En défeuillant vos rameaux, chantez, chantez Magnanarelles », puisqu'évidemment cette activité se faisait en chantant. Alors, ce tableau va être au centre d'un événement qui aura lieu le samedi 21 mai, c'est la nuit des musées. Et donc le musée d'Uzès sera ouvert en nocturne de 20h à 23h, et vous pourrez découvrir les réalisations des élèves de terminale L du lycée Charles Gide qui ont travaillé à partir de ce tableau. Vous retrouverez donc des magnanarelles, mais aussi, très certainement, beaucoup de magnans. Donc ce sera un petit peu la nuit des magnans. À découvrir donc le samedi 21 mai, de 20h à 23h, l'entrée sera gratuite. Et vous pouvez bien sûr retrouver la description de cet objet et réécouter les précédentes émissions sur le site du musée d'Uzès, usesmusee.blogspot.fr. À bientôt pour un prochain Fréquence Musée sur Fuse.